Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre, Eva Rock pour un zapping du lendemain clownesque et Bertrand Chameroy pour un écran de veille footballistique. Notre invitée, c'est la chanteuse Clara Luciani qui sort aujourd'hui son tout nouvel album. Il s'appelle Cœur et elle sera avec nous. Et puis dans les indispensables, les récits de Christophe Ondelat mais en BD, sans les accents donc, Mathieu Charrier va tout nous dire. Et puis le citron sous toutes ses formes, c'est Marion Sauveur qui arrivera pour nous le faire redécouvrir. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe, bonjour Eva.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille et ce matin, vous nous parlez de foot puisque ce soir débute l'Euro.
Et oui, l'occasion pour moi de vous refourguer mon jingle préféré. Ah, on s'en lasse pas. Foot donc avec cette nouvelle émission diffusée depuis lundi sur TFX, championne famille de footballeurs. Une sorte de docu-réalité pour découvrir le quotidien de 8 femmes de joueurs de foot sur qui la passion de leur mari a visiblement déteint. Ah aussi, écoutez la femme de Mamadou Sakho parler de leurs enfants.
Nous avons 3 enfants, mais idéalement on voudrait doubler le score.
Et oui, quand on est femme de footballeur, on n'agrandit pas la famille, on double le score. De toutes mes championnes qui participent à l'émission, arrêtons-nous sur ma préférée, Sarah, femme de Mathieu Dossévy, qui a plutôt confiance en elle, si l'on se fie à son portrait.
Je suis pas qu'un physique. Moi, j'en ai là, dedans.
On sent directement quand je le pense.
Je suis belle et intelligente. Un défaut peut-être ? Oui, je suis perfectionniste. Alors, du statut de femme de footballeur découle pas mal de clichés. Certaines mauvaises langues leur collent souvent les étiquettes de vénalité et de superficialité. L'un des objectifs du programme est donc de prouver le contraire en cassant les idées reçues. Bon, c'est pas gagné-gagné. Hein.
On va faire un petit peu de shopping. J'ai envie de m'acheter un sac, mais encore un sac. Oui, c'est ça. Je craque. J'ai trop envie.
Et ensuite, on assiste à une séance de shopping dans les rues de Monaco, notamment dans une boutique d'accessoires pour chiens, dans lequel la jeune femme achète un collier serti de diamants à son toutou. Suite de la déconstruction des idées reçues avec cette virée en amoureux.
C'est très bien que j'adore tout ce qui brille. Donc, de ramener sa femme dans le temple de l'or, c'est juste le kiff. Je me sens VIP, une petite princesse qui a débarqué.
Pour une émission qui veut casser les clichés, c'est pas mal parti. Hein. Ouais. Mais cette télé-réalité, c'est aussi de l'amour, du love, des déclarations enflammées.
J'ai beaucoup de chance d'être femme de joueur.
Ah bon, pourquoi ? Peut-être parce qu'en plus d'être un bon joueur, c'est un mari et un père formidable. Pourquoi a-t-elle de la chance d'être femme de joueur ?
Parce que justement, je peux réaliser mes rêves. Pendant que les autres travaillent du matin au soir, peut-être pour quelqu'un d'autre. Même si c'est pas toujours facile, je suis vraiment reconnaissant pour pouvoir vivre cette vie.
Eh ben oui, parce que pendant que les autres triment, eh ben elle se la coule douce, hein, ce qui est effectivement une chance. Voici d'ailleurs sa réaction le jour de la Saint-Valentin, au moment où, sur un très beau bateau, son mari lui offre une paire de chaussures et des vêtements de luxe.
Je t'ai bien choisi. C'est lui-là, je l'ai trouvé et je le garde à vie.
Voilà, un peu d'amour pour terminer la semaine, ça fait du bien maintenant. Grâce à Championne sur TFX, vous savez, tenez-le vous pour dit, non, les femmes de footballeurs ne sont pas superficielles. Enfin, pas toutes.
Merci Bertrand Chameroy. Eva, vous ouvriez des yeux comme des soucoupes.
Ouais, pardon.
Pardon.
Non, mais je suis un... Voilà.
Alors, vous avez un coup
c'est
de
beaucoup
cœur.
Trop beau pour un chien. Vous vous souvenez de cette réplique?
Et vous m'avez dit avoir eu un coup de cœur pour ce dernier zapping de la semaine.
Exactement, Philippe. Alors, petit préambule, je suis fan de Coluche. Je pense que j'ai à peu près vu tous les documentaires le concernant. Donc, quand France 3 annonce un nouveau documentaire sur lui, je suis plutôt sceptique. Sauf que, quand vous avez les bons témoins, les bonnes histoires, les bonnes archives, la bonne réalisation, et que surtout vous évitez de débuter le programme avec le sketch de « C'est l'histoire d'un mec »,
Eva Rock, elle est contente.
Eva Rock, elle est contente. Et ça marche. Alors, le film est chapitré. Coluche, le banlieusard, le showman, le pote, le provocateur et le clown en premier lieu. Et pour devenir clown, Coluche s'est doté d'une salopette, de chaussures jaunes, mais surtout, il a décidé de grossir. Oui, pour faire rire, il fallait être gros. Et il est prêt à tout pour cela, parce que si vous vous souvenez des premières archives, il est plutôt très mince. Histoire racontée par Claire Nadeau et Thierry Lhermitte.
On allait manger tous les jours un espèce de petit restaurant ouvrier qu'il y avait en bas de la rue. Et il mangeait 2 fois de tout.
C'est-à-dire qu'il faisait un repas entier, puis arrivé au dessert, il recommençait au début, il reprenait tout.
Ça va, je vous dérange pas là?
En fait, je mange pas beaucoup. Je mange un petit peu de chaque chose, quoi.
Donc, il prenait 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit gros.
Et voilà comment il est devenu gros, et donc il avait son costume de clown. Alors Thierry Lhermitte, c'est vraiment le copain du Café Théâtre. Ils étaient ensemble sur scène dans un lieu créé par Coluche après le Café de la Gare. Il avait racheté un lieu qui s'appelle le Vrai Chic Parisien. La troupe du Splendide s'était installée dans la même rue, notamment grâce à l'aide financière de Coluche. Et donc les comédiens passaient d'une scène à l'autre. C'était le temps de l'insouciance et le temps des conneries. Récit de Gérard Lanvin et toujours Thierry Lhermitte.
Comme il y avait toujours des gens en retard, on leur disait venez, venez, on va vous placer. On les emmenait, on passait par ici, on les faisait monter sur scène et la lumière s'allumait à ce moment-là. Ils étaient au milieu de la scène, ce genre de truc.
On était quand même une équipe de cinglés qui, avec des changements très rapides de costumes, à nous faire des saloperies, c'est-à-dire de mettre de la viande hachée dans les chaussures du pote qui doit enfiler très vite. Donc arriver sur scène avec 200 grammes de viande hachée dans chaque chaussure.
C'est complètement bête, mais ça me fait rire, pardon. Alors, de chaussures, figurez-vous qu'il en a encore question par la suite, parce que Coluche adorait ça. Et dans sa grande maison parisienne, vous savez, c'était une auberge espagnole où tous les potes venaient quand ils le souhaitaient, eh bien, Coluche s'était installé un atelier.
Il voulait faire beaucoup de choses manuellement, et pas forcément d'une habileté extraordinaire, mais quand même, il s'acharnait, donc il découpait des trucs, faire des sandales en cuir. Enfin, bon, c'était moche comme tout, mais...
Il fabriquait des chaussures, qui étaient immétables. Qui faisait mal aux pieds.
Personne n'a jamais voulu en porter.
Je me suis gouré, dis donc, je viens d'essayer, je les ai fait trop grandes. J'ai l'air con. Je me fais des godasses sur mesure, elles ne vont pas. Ça fait rien, je trouverai bien un copain à qui ça va.
Alors, on va oublier les chaussures. Moi, je ne connaissais absolument pas cette histoire chaussures. On va les oublier, mais on n'oublie pas cette maison de la rue Gazan qui était un lieu festif, un lieu convivial, un lieu de discussion aussi, puis un lieu de solidarité. Coluche avait été pauvre, il avait connu les galères et la petite délinquance. Lui, il n'avait pas oublié ça. La suite, c'est Maryse Gildas qui le raconte.
On est invité rue Gazan. Il y avait l'escalier qui montait aux chambres. Et au pied de l'escalier, il y avait les anciennes boîtes de bananiers en fer, vous voyez, assez hautes, très hautes. Dans cette boîte, haute comme ça, hein. Ça m'a flèche, c'était étonnant. Des billets de 500 francs. Je referme et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça, tirelire? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il dit, non, mais c'est parce que quand les copains viennent, et Dieu sait s'il y en a qui sont dans la... Oui, ils vont se servir, ne pas demander. J'ai rarement vu ça dans ma vie, moi.
Quand ils ont besoin d'argent, je dis pas j'en ai, je dis on en a. Servez-vous, tu vois.
Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens. Que tu t'acharnes obstinément.
J'adore cette histoire de ces billets de 500 francs mis à disposition des copains. Alors si vous voulez d'autres histoires, si vous voulez réentendre des sketchs plus ou moins connus, si vous voulez comprendre quel homme était Coluche, regardez ce documentaire de Mathieu Jaubert et dont la narration est assurée par Gérard Jugnot. 2 heures qui pourraient se prolonger sans que jamais on ne se lasse. C'est vraiment un très très beau documentaire. Coluche, une époque formidable, sur France 3 ce soir à 21h05.
Merci beaucoup Eva Roch, merci beaucoup Bertrand Chameroy. On vous retrouve tous les matins. Bertrand, vous serez lundi à 7h40 avec Mathieu Béliard qui revient de vacances, et nous deux, nous trois, on se retrouve lundi à 10h. Dans un instant, notre invitée, la chanteuse Clara Luciani, son nouvel album vient de sortir aujourd'hui. On écoute déjà ce titre, il s'appelle Le Reste.
Génial.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était. Je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho. J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse. Les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse.
Le reste, c'est Clara Luciani sur Europe 1. Elle est déjà dans ce studio. Son nouvel album dont est issu ce titre sort aujourd'hui. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vondel.
Bonjour Clara Luciani.
Bonjour.
Plaisir de vous voir dans ce studio. Vous êtes chanteuse, autrice, compositrice, deux victoires de la musique, révélation scène, artiste féminine, c'est pas rien. Un premier album, Sainte Victoire, qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires, triple disque de platine, c'est pas rien non plus. Avec ce titre, La Grenade, qui est devenu un tube et également un hymne féministe. Votre actualité, c'est donc votre deuxième album, il s'appelle Cœur. Merci d'avoir choisi Culture Média pour le présenter. Alors, le deuxième album, c'est souvent le plus important, comme vous avez dit vous-même une fois. Le premier album, on le fait pour soi, le second, on le fait pour le public. On vient d'entendre le titre Le Reste. On va parler du reste, justement. Comment vous l'avez conçu? Il y avait une idée de départ ou ça s'est fait comme ça? C'est un agrégat de chansons? Non, non, l'album.
À l'album. Non, j'avais pas d'idée de départ. Je voulais justement ne rien m'imposer. Je voulais rester libre et puis essayer, en fait, de retrouver l'instinct qui m'avait poussé à écrire les premières chansons. Et essayer d'oublier, tant bien que mal, l'accueil phénoménal du premier disque et puis ne pas trop penser au fait que les gens attendaient la suite.
Que les gens vous attendent, ouais. Puisque vous parlez d'instinct, cette chanson-là, vous l'avez composée comment, Le Reste ?
Je l'ai composée en deux temps. J'ai commencé à écrire les couplets en loge de juste avant ou après un concert, je ne sais plus. Ouais. Et puis ensuite, un week-end, j'ai écrit le refrain. Je me souviens, ma sœur était là, elle était assise par terre, j'avais ma guitare, et puis on parlait, je cherchais des trucs en même temps. Et quand j'ai fait fredonner le reste, je te le laisse, on m'a dit, ah, ça, tu devrais le garder, c'est pas mal.
Alors, vous l'avez dit, c'est un événement très attendu, ce deuxième album. Beaucoup de papiers vous sont consacrés. Et alors, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que ce soit l'Obs, Le Point, le Télégramme de Brest ou d'autres, tous ont relevé que vous utilisez le mot cul en parlant des fesses d'un garçon. Et j'ai découvert en préparant l'entretien que vous aviez été même posé la question.
Ben oui, parce que y avait quelque chose d'un peu irrévérencieux, quoi. Enfin, je suis quand même une amoureuse des mots et puis je suis quand même quelqu'un de très poli. Donc ouais, je me suis posé la question. Surtout que j'ai envoyé la chanson à mon papa qui m'a dit « Oh, ce mot dans ta bouche, c'est pas joli ». Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit « Bon, déjà, moi, j'aime pas trop toucher mes textes. » Je me suis dit que si ce mot-là m'était venu naturellement, peut-être qu'il fallait qu'il reste. Et puis, il y avait l'idée de rajouter un petit grain de poivre et puis l'idée surtout, encore plus importante de défendre la liberté d'expression, ouais. Libérer la parole des femmes.
À propos de petits grains de poivre, extrait la chanson Le Reste.
Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce.
Voilà, on a entendu le cul. Les femmes peuvent se permettre des mots que les hommes ne peuvent peut-être plus. Écoutez, Benjamin Biolay, c'était un duo avec Jeanne Chéral dans la chanson Brant Rhapsody. Il n'ose pas prononcer le mot, il le recouvre.
Mon amour, tu dormais si bien que j'ai pas osé te réveiller. Je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux après on peut s'appeler. Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu. Si t'as du travail, je te dis à plus tard et j'embrasse ton cul.
Je suis à toi, je te veux, je pense à
Les femmes peuvent dire des choses que les hommes ne peuvent plus dire maintenant.
Moi, j'ai entendu cul, là, pas vous ?
Non, il est recouvert par la voix de Jeanne Chéral.
Ah bon ? Je l'entends pourtant.
Peut-être vous connaissez le proverbe ? Chacun voit midi à sa porte.
Ah, mais c'est drôle, j'ai toujours entendu cul. Non, mais justement, Benjamin Biolay, c'est un bon exemple. C'est quelqu'un qui parle avec beaucoup de poésie, de la sensualité. Il est parfois un peu cru et c'est toujours extrêmement élégant. Donc, je me suis dit, oh, si Benjamin Biolay le fait, peut-être que je peux essayer de me plier à l'exercice.
C'est un album très dansant, joyeux. Vos influences, c'était lesquelles ?
Bon, j'en ai plein, mais sur ce disque-là, peut-être plus des artistes comme Abba, ou les Jackson 5, ou Céron même, Dalida. Peut-être même un petit brin de Claude François.
Il y a ce titre « Respire encore » qui pourrait cartonner à partir de juillet, puisque c'est la date d'ouverture, de réouverture annoncée des boîtes de nuit.
Ah, mais il y a une date pour ça maintenant ?
Peut-être, ça sera le 2 juillet. Et il y aura une réunion le 21
ah,
ou le 25. Bah si, c'est vrai. Oh. On apprend toujours des choses dans Culture Média.
Bah dis donc.
Extrait « Respire encore ».
Il s'effleure son timidité, une insolence chorégraphiée.
On pourrait croire que c'est une chanson nostalgique du monde d'avant, une chanson sur le déconfinement, mais c'est plus tragique que ça, c'est plus profond que ça, cette chanson.
À l'origine, ça l'était en tout cas. À l'origine, c'est une chanson que j'ai commencé à écrire en pensant à une amie qui était enfermée dans une relation assez, assez nocive, et puis qui venait de mettre fin à son couple, et puis qui reprenait un peu ses droits sur la vie, et puis qui recommençait à sortir, à vouloir séduire. Et au fur et à mesure que je l'écrivais, en fait, je suis arrivée au refrain. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout une chanson sur juste un personnage fictif. Je suis en train de raconter l'histoire de tous les Français, voire de tous les êtres humains dans le monde actuellement. Et du coup, j'ai évidemment poussé le trait et je suis allée vers quelque chose de beaucoup plus hymne au déconfinement. Quoi.
Voilà, et joyeux. Et ça peut s'entendre en boîte de nuit. Je répète cette date, le 2 juillet. Mais dans quelques instants, Clara Luciani sera encore avec nous dans ce studio, donc avec vous.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Clara Luciani, son deuxième album sort aujourd'hui. Elle a choisi Culture Média pour le présenter. L'album s'appelle Cœur. On va entendre quelques notes. Cœur, c'est le titre de la chanson qui ouvre cet album.
Ta peau est fine comme du papier cigare. Chaque fois qu'on la frappe, il y pousse une
Cœur, le titre de cette chanson consacrée aux violences conjugales et à l'amour qui cogne, mais évidemment pas dans le bon sens du terme. C'était presque un choix politique de le mettre en ouverture de l'album, de la mettre, cette chanson, en ouverture de l'album.
Le sujet me semblait tellement important, tellement grave, que je l'imaginais pas noyé, en fait, entre mes histoires d'amour et... Enfin voilà, j'avais envie qu'elle ait la meilleure place possible.
Parce que ça parle beaucoup d'amour, cet album.
Oui.
Mais
oui,
plus
oui.
Joyeux que le précédent.
Ah oh bah oui, même rieur, quoi, moqueur, il y a quelque chose de plus second degré.
Ouais. Il y a cette chanson qui s'appelle Le Chanteur, dans laquelle vous dites « Quelle grossière erreur, tomber amoureuse du chanteur ». Pour quelle raison ? C'est du vécu ?
Non, mais c'est un peu comme Bandit, quoi, qui est l'avant-dernière chanson du disque. C'est des amours fantasmés. Hein.
Ouais.
C'est l'histoire du cœur avec tout ce qu'il a de compliqué. Donc, ses joies, ses peines, ses fantasmes. Donc voilà, le chanteur et Bandit, c'est les personnages imaginaires. Un peu.
Je veux dire pourquoi je souris, parce que votre premier album était centré autour de la rupture amoureuse. J'ai retrouvé une interview de 2019 dans un journal belge. Vous vous souvenez ce
oh
que
là
vous
là
leur aviez raconté ?
Non.
Il dit 25 décembre 2019, Clara Luciani. Je me fais larguer régulièrement, une rupture tous les 3-4 mois, comme si c'était un exercice que je m'imposais pour écrire. Et là, vous faisiez
oh
cette
là
prophétie, vous avez dit « Ne vous inquiétez pas, pour mon prochain disque, il y aura de la matière ».
Ah bah oui, non mais j'ai eu un bon rythme, c'est vrai.
Et vous avez continué à vous faire larguer. Je précise que jamais je lancerai ce sujet si vous n'en aviez pas parlé
vous-même.
Ah non,
bien sûr. Non, mais je largue, je me fais larguer. Enfin, je veux dire, comme n'importe qui, non. Enfin, peut-être plus que les autres, je sais pas. J'ai pas les chiffres, quoi. Je sais pas si je me situe dans la moyenne.
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces propos-là? C'est que vous dites, Benjamin Lecoq, vous interviewe dans Paris Match, là, qui est sorti récemment, et vous dites, ça m'intéresse pas d'être dans autre chose que l'intime. Et vous dites, ce qui vous intéresse, c'est les chanteurs qui parlent d'eux. Et vous-même, vous parlez de vous-même de la même manière.
Ben oui, mais pas seulement. Enfin, qui parlent d'eux, mais qui parlent aussi de leurs failles. Ça m'intéresse pas d'avoir un portrait biaisé, quoi. Mm-hmm. Moi, je suis pas là pour mentir sur la marchandise. Ce qui fait que les chansons, même si elles sont parfois très dansantes, il y a toujours un aspect un peu plus sombre, peut-être, dans les paroles.
Je sais pas plaire, c'est du vécu également. Elle est incroyable, cette chanson.
Complètement. Ben, c'est peut-être la chanson qui me ressemble le plus dans l'album.
Ah oui.
Elle dit beaucoup de moi. Moi, oui.
Est-ce qu'on peut en entendre quelques notes?
Je sais pas faire aussi bien que les copines dans les bars qui se dandinent pour pas rentrer toute seule, non. Je sais pas rouler des airs ni des hanches, avoir l'air d'être là par hasard, non. Je sais pas faire. J'ai pas je ne sais quoi dans les cils, dans la voix, pas de parfum impérieux. Si on s'éprend de moi par un hasard heureux, ce n'est pas pour mes beaux yeux.
En fait, passer des chansons, ça remplace l'interview avec vous, Clara Luciani, car c'est à la fois votre voix, vos mots et en plus votre musique. Non seulement vous chantez, non seulement vous composez, mais également vous dessinez. Et justement, on va parler de bande dessinée avec Mathieu Charrier. Culture
super.
Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Blondel. 9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Blondel.
En compagnie de Clara Luciani, chanteuse, autrice, compositrice, dont le nouvel album Cœur vient de sortir aujourd'hui, vendredi. Vous êtes chanteuse, je l'ai dit, mais également, je l'ai découvert en préparant cet entretien, vous n'arrêtez pas de dessiner, Clara Luciani, pas n'importe quoi, vous dessinez des Baudelaire, racontez.
oui, bon, alors je ne suis pas une grande dessinatrice, mais c'est vrai que j'ai toujours adoré dessiner. Et j'ai effectivement fait la couverture de la nouvelle édition des Fleurs du Mal, non censurée, aux éditions Calmann Lévy.
Très très beau livre que j'ai la chance d'avoir, mais ça veut dire quoi dessiner des Baudelaire?
Non, j'ai juste dessiné la couverture, quoi. Donc juste, je me suis inventé un peu une vision de Charles Baudelaire, qui est un personnage qui a marqué mon adolescence. Et donc voilà, il est devenu une espèce de conte Dracula avec sa Jeanne Duval à côté, et puis des fleurs dangereuses autour.
Et vous êtes fan de BD sinon?
Oui, j'aime beaucoup les bandes dessinées.
Ben, comme Mathieu Charrier. Ouais. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Vous avez vu cet enchaînement?
Magnifique, je ne l'ai pas vu venir.
Vrai professionnel,
personne,
attention.
Personne. On vous retrouve pour votre sélection de bandes dessinées. On commence par l'adaptation des récits de Christophe Ondelat en BD.
Exactement, vous êtes sans doute comme moi fan d'Ondelat raconte, l'émission de récits de Christophe qui cartonne également podcast, émission de récits tous les jours sur Europe 1. Et donc Jean-Louis Tripp, auteur réputé de BD, lui-même fan, auteur réputé notamment pour sa série Magasin Général ou Extase, eh bien s'est dit, tiens, pourquoi ne pas adapter ses récits en BD? C'est désormais chose faite avec Tu ne tueras point. Alors, il y a une dizaine de faits divers qu'il raconte, que Christophe avait raconté sur notre antenne et qu'il adapte en scénario BD. C'est dessiné par Cyril Duhano. Vous découvrirez ou redécouvrirez l'histoire de Jean-Pierre Jeulin. A-t-il tué sa femme dans le lit conjugal? Tatam. C'était quand même un certain Éric Dupond-Moretti qui assurait sa défense. Le destin de la communauté de Rochebesse en Ardèche qui va complètement partir en sucette. Ou l'affaire Édouard Stern, vous vous en rappelez peut-être, ce banquier d'affaires retrouvé mort en tenue de sadomasochisme, latex et tutti quanti. Écoutez Jean-Louis Tripp.
Il n'y a aucune histoire de serial killer ou de violeur d'enfants, etc., etc. Je ne voulais pas de psychopathe là-dedans. Parce que ce qui m'intéresse à moi, et je crois aussi que c'est ce qui intéresse beaucoup Christophe, c'est le meurtre ordinaire, c'est-à-dire c'est des gens qui sont souvent très intégrés dans la vie, puis qui un jour, un des cas classiques, c'est plutôt que de divorcer, je vais tuer mon conjoint ou ma conjointe. C'est un truc incroyable, mais et ça nous confronte en fait. Puis l'autre truc, c'est que même un meurtre presque accidentel, dès qu'il est commis, la personne qui l'a commis, le premier réflexe qu'elle a, c'est comment je vais échapper à la sanction, c'est-à-dire comment je vais faire disparaître le cadavre, alors en le découpant en morceaux, en le brûlant, en fait, les trucs les plus hallucinants. Est-ce que moi, ça c'est un truc qui pourrait m'arriver dans certaines circonstances. C'est intriguant, enfin, c'est confrontant, quoi, vraiment.
Voilà, c'est confrontant. C'est vraiment une BD qui se lit facilement si vous êtes amateur de faits divers. Elle se picore puisque chaque histoire fait une dizaine de pages et ça permet de découvrir ou redécouvrir les récits de Christophe Ondelat sous une nouvelle forme. Ça s'appelle donc Tu ne tueras point. C'est chez Glénat.
Autre de vos choix, Mathieu, c'est Joe la pirate.
C'est chez Le Lombard, pardon.
Chez Le Lombard. Autre de vos choix, Mathieu, oui. Joe la pirate, c'est signé Hubert et Virginie Augustin.
Et c'est celle-là qui est chez Glénat, qui nous raconte l'histoire de Marion Barbara Carstairs, à la Joe, lesbienne dans les années 20, descendante d'une famille extrêmement riche, sauf qu'elle, eh ben, elle envoie tout balader, elle décide de se couper les cheveux, de s'habiller comme un homme. Alors aujourd'hui encore, ce serait sans doute pas totalement admis par la société, mais imaginez à l'époque, il y a un siècle, elle pilote un bateau, elle devient championne de course de bateau, s'achète une île, s'en moque complètement des conventions et enchaîne les relations amoureuses. La légende raconte même qu'elle a notamment séduit Marlène Dietrich. C'est une BD qui fait vraiment souffler sur vous un vent de liberté. Cette femme, elle est morte à 93 ans, comme quoi la liberté, ça conserve. Jo, qui quittait jamais sa petite poupée, une sorte de poupée en chiffon qu'elle portait sur son épaule, elle discute avec elle toute la journée, rendant même jalouse certaines de ses conquêtes. C'est d'une poésie folle. Bref, c'est un personnage extraordinaire, bluffant. Au scénario, on retrouve le regretté Hubert, qui a cartonné l'an dernier avec sa BD qui s'appelle Peau d'homme. Là aussi, si vous l'avez pas lu, je vous le reconseille. On en avait parlé ici. Virginie Augustin au dessin, vraiment foncé. Acheter Jo la pirate, c'est donc chez Glénat cette fois.
Et pour finir, autre choix, Suzette, c'est signé Fabien Toulmé.
Bouleversante bande dessinée, Suzette vient de perdre son mari avec qui elle a vécu pendant des décennies. Bon, c'était pas l'amour fou, mais à l'époque, vous savez, fallait bien se marier. Alors elle, celui qu'elle a aimé en fait, avec lequel il s'est pourtant jamais rien passé, c'est Francesco, un Italien qu'elle avait rencontré alors qu'elle était nounou dans une riche famille à l'âge de 23 ans. Sauf que Noémie, sa petite fille, va avoir une idée. Et si on partait toutes les deux à la recherche de ton Francesco à Portofino, cette petite ville côtière italienne? Je vous dirai pas si elles y arrivent, mais c'est un récit poignant sur l'amour, sur les liens grands-parents-petits-enfants, sur le couple, sur le rapport à leur corps aussi que peuvent avoir les personnes âgées. Fabien Toulmé, l'auteur, il avait réalisé avant cette BD un triptyque consacré à l'odyssée d'un migrant qui s'appelle Hakim. Et derrière ce dessin, très ligne claire, tout en rondeur, il y a une avalanche d'émotions. Donc lisez ce Suzette chez Delcourt. Et puis d'un mot, je vous dis d'ailleurs que Fabien Toulmé, l'auteur, vous pourrez le retrouver ce week-end au Lyon BD Festival, puisque c'est le festival de la BD de Lyon tout le week-end. Des ateliers, des rencontres, vous avez Riyad Satouf, Pénélope Bagieuse, Zeb, Johan Sfar, Mathieu Sapin, Florence Sestac, tout le monde, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ça commence aujourd'hui, tout le week-end, et c'est l'occasion d'aller découvrir de belles BD.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, ne manque que Clara Luciani. Ça vous a plu ce que vous a raconté Mathieu?
Bah ouais, ça me donne envie de découvrir ces bandes dessinées, vraiment. On les a entre les mains, on les regarde, ouais. Elles ont l'air très belles.
Elles sont très belles.
Suzette, que j'ai eu la chance d'un peu feuilleter, est absolument irrésistible.
Dingue.
Merci beaucoup Mathieu Charrier. Merci. Dans un instant, on va parler de cuisine. Ça aussi, ça vous plaît?
Moi, c'est manger surtout qui me plaît.
Je crois que c'est la plus belle phrase qu'on puisse faire au sujet de la cuisine. Qu'est-ce que j'aime cette phrase. Marion Sauveur est déjà dans ce studio. Mais d'abord, musique, Clara Luciani en duo avec Julien Doré. Ça s'appelle « Sad and Slow ».
Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Sad and slow. Joue-moi quelque chose de beau. De sad and slow. Quelque chose sur ton piano. Sad and slow. Joue-moi quelque chose de beau. Une chanson triste pourrait m'être fatale. Me posséder par le cœur et la peau. Je t'écouterai à l'horizontale en fixant le blanc parfait des rideaux. Que tes airs recouvrent d'eau le désert de mes deux yeux.
Que tout en diffère. Oh.
Sad and Slow, Clara Luciani en duo avec Julien Doré, c'est tiré de son deuxième album Cœur qui sort aujourd'hui. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Marion Sauveur, en parler d'un fruit que notre invité a l'air de bien connaître. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Clara Luciani, son deuxième album sort aujourd'hui, il s'appelle Cœur. On a entendu pour ouvrir cette émission la chanson Le Reste dont on a parlé. Il y a un très beau clip, un peu façon ambiance Jacques Demy, tourné dans quel village de Provence?
À Sanary-sur-Mer.
Et alors, il y a un plan où vous êtes totalement couché sur un lit de citron. Bonjour Marion Sauveur.
Bonjour.
Ça ne pouvait pas mieux tomber car vous nous parlez de ce fruit qu'on peut consommer tout au long de l'année, le citron.
Mais oui, un fruit emblématique de la Côte d'Azur, acide et juteux, qui va vous apporter en ce moment toute la fraîcheur avec ces températures estivales. Quoi, effectivement, de plus désaltérant, de plus rafraîchissant qu'une bonne citronnade maison? Vous allez mélanger
j'ai des réponses, mais
un petit
pas
peu
les
d'eau. Un petit peu d'eau et de sucre avec un jus de citron, quelques glaçons, on peut même mettre un peu de feuilles de menthe fraîche pour apporter encore plus de fraîcheur. Et c'est un délice à siroter à l'ombre.
Vous en avez préparé ?
Même pas, vous voyez, pas. J'aurais pu.
Vous auriez pu, mais vous ne l'avez pas fait.
Et en France, on connaît le citron de Menton, donc pas très loin de chez vous. On peut le croquer à même la peau, hein, tellement il est doux, c'est assez dingue. Mais oui, il faut que vous essayiez, Philippe.
Vous mangez les citrons à même la peau, Clara Luciani ?
Je crois qu'il y a certains citrons de Sicile plutôt, non, qui sont plus faciles
mais
à manger.
Aussi, ah ouais, ça dépend en fonction de sa douceur, s'il est acide ou pas. Alors, sa saison vient juste de se terminer et il a l'indication géographique protégée comme les Italiens de la côte amalfitaine ou les Siciliens de Syracuse ou de l'Etna. Très doux, là aussi, il faut goûter. Alors, il y a bien d'autres citrons italiens qui viennent jusqu'à nous tout au long de l'année, comme les Espagnols. Et pourtant, à l'origine, ce n'est pas un fruit de la Méditerranée, c'est un fruit qui viendrait d'Asie. Et c'est un hybride, le citron, une sorte de cédra et d'orange amère qui se sont mixés. Et il aurait été ramené jusqu'en Espagne ou en Sicile par les Arabes. Et au XVe siècle, on a commencé à cultiver le citron en France, notamment à Menton.
Et alors, vous me dites que ce qui est génial avec le citron, c'est que tout se mange.
Mais oui, alors l'écorce dans... Mais il faut aimer quand même l'acidité du citron, c'est vrai.
D'accord,
alors après, on peut manger le zeste hein, avec la surface de la peau jaune qu'on râpe, par exemple, sur un filet de poisson avec des graines de fenouil. On ne touche pas surtout à la membrane blanche qui s'appelle le ziste et
c'est
qui est très
vrai.
Amère.
Il y a le ziste et le zeste.
Voilà, exactement.
On dirait une BD.
Mais alors, elle est très amère, mais riche en pectine, donc vous pouvez l'utiliser quand même dans vos confitures. Et puis après, vous avez forcément la pulpe et il faut... En tout cas, que vous achetiez des citrons bio, c'est important parce que si vous utilisez le zeste, il ne faut pas qu'il soit traité, ces citrons. Et puis, il faut le choisir ferme, un petit peu lourd avec une écorce et d'un jaune éclatant.
Alors, trois recettes de citrons que vous nous proposez, Marion. On commence par un ceviche.
Oui, le plat national péruvien et c'est de la fraîcheur. C'est l'idéal en ce moment, un poisson à chair blanche. Donc, je vous propose de la dorade ce matin, qu'on va donc faire mariner dans un leche de tigré. Donc, un jus de citron avec du piment, de la coriandre et de l'oignon rouge. On fait mariner au dernier moment ce poisson qu'on a coupé en petits dés, une dizaine de minutes et l'acidité du citron va cuire le poisson.
Je croyais qu'il fallait du citron vert pour le ceviche, non ?
Pas forcément, ça marche l'acidité du citron jaune, bien sûr. Moi j'aime bien rajouter des radis, des concombres, des petites choses comme ça dans le ceviche.
On passe au plat.
Oui, un poulet au citron.
Ah, ça j'adore.
Hyper facile à faire. Vous allez faire mariner là encore vos pilons de poulet avec de l'huile d'olive et des épices, curcuma, cumin, du piment si vous aimez. On les fait revenir avec des petits oignons. Quand ils sont tout dorés, vous ajoutez du bouillon de volaille, les citrons en tranches et des olives. On laisse mijoter 15-20 minutes et là vous allez avoir le poulet au bon goût de citron.
Et en dessert ?
Ah, des tartelettes au citron,
ah bah voilà.
Mais toutes simples à faire.
J'ai faim moi maintenant.
Vous allez faire des biscuits au citron, en fait des petits sablés que vous pourrez même emporter ou manger maintenant d'ailleurs si vous voulez, avec beaucoup de jus, beaucoup de zeste pour qu'ils aient plein de goût. Une petite crème au citron avec des œufs et du sucre, on rajoute le jus et les zestes là aussi. On va laisser épaissir, ajouter du beurre et on va pocher cette crème sur les sablés tout simplement. Il y en aura des tartelettes au citron parfaites.
Et des petites mousses aussi, non ?
Ah oui, les mousses aussi. C'est délicieux au citron.
Clara Luciani qui ouvre des yeux comme des tartelettes au citron. Vous êtes une bonne cuisinière ou pas du tout ? Vous aimez juste manger ?
Non, moi je suis là juste pour manger, vraiment. Mais j'adore ça, c'est vraiment une passion.
C'est vrai ?
J'adore manger.
Pareil. Merci beaucoup Marion Sauveur.
Avec
on retrouve
plaisir.
Les recettes sur europe1.fr. On vous retrouve demain en balade gourmande dans la matinale de Pierre de Villeneuve. Vous serez aux côtés de Laurent Mariotte à partir de 11h à la table des bons vivants.
Oui, avec Franck Dubosc demain au programme. Et on s'intéressera aussi à la cuisine des graines avec le nouveau restaurant de Michel Brasse et Sébastien Brasse qui ouvre à Paris la Halograin.
Oui, la Halograin, c'est bien trouvé. Merci beaucoup Marion Sauveur. Culture Média continue. C'est la dernière ligne droite avec Clara Luciani. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Clara Luciani, qui n'en revient pas de ce que nous avons dit sur les citrons. On a entendu le titre « Chez Paplaire » et en préparant cet entretien, j'ai appris des choses sur vous que j'ignorais complètement. Quand on vous voit sur scène flamboyante, on a de la peine à imaginer que quand vous aviez 10-11 ans, vous étiez le vilain petit canard.
Ah oui, ouais, ça a été long et pénible. Je pense que j'étais le vilain de petit canard depuis, je sais pas, de mes 5 à 15 ans, quoi. Ça a été assez pénible. J'ai toujours été très grande.
Ouais.
À 11 ans, je faisais 1m76. Donc voilà, ça a été très compliqué. J'ai été beaucoup moquée, beaucoup mise sur le côté. Puis j'étais un petit peu aussi la bizarre. Je vivais un peu dans mon monde, dans mes livres, donc ça n'a pas aidé.
Ah oui. Et ça s'est arrangé ou pas?
Ça s'est arrangé. Et puis en plus, je pense que c'est aussi ce qui m'a fait me réfugier dans un espèce de monde imaginaire dans lequel j'ai commencé à écrire des chansons, etc. Donc rien n'arrive par hasard aussi.
Vous étiez, on l'a dit, à Martigues. Vous êtes montée à Paris pour faire de la chanson, de la musique. Vous avez démarré avec le groupe La Femme, dont on parle encore, qui existe encore. Vous étiez chanteuse, vous étiez une des chanteuses. C'est passé comment?
En fait, La Femme, c'est plus, je pense qu'ils se considèrent davantage comme un collectif que comme un groupe. Et à l'époque, on était peut-être 2 ou 3 chanteuses. Et donc, j'ai jamais eu ni l'impression de rejoindre le groupe ni de le quitter, quoi. C'est comme, je sais pas, même encore aujourd'hui, il m'arrive de les retrouver, de faire des chœurs sur leurs chansons. Leur dernier Zénith, je suis venue chanter avec eux. Enfin, ça reste ma famille.
Vous aviez 19 ans seulement. C'est vrai que vous avez eu peur de vous présenter à l'audition?
Oui, j'ai dit que j'avais mal à la gorge, enfin que je toussais, je sais pas trop quoi.
Mais finalement, c'est quand même fait. Vous avez passé l'audition.
Marlène m'a dit, tu devrais quand même vraiment venir parce que quand on passera à la radio, tu t'en mordras les doigts. Et donc finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée chanter.
Et c'était quand même, ils avaient un succès gros, quoi. Vous avez fait des tournées, y compris en Angleterre, j'ai lu, mais je pensais pas que c'était dans des conditions pareilles.
Ouais,
parce
non,
que quand les gens racontent les galères, écoutez la galère de Clara Luciani avec La Femme en Angleterre.
Non, mais c'était extraordinaire. Hein. J'ai vraiment passé des moments fabuleux. C'était mes premières scènes, mais c'est vrai qu'on était payé 20 pounds pour, je sais plus, je crois qu'on était 7 dans le groupe.
20 livres, quoi.
Ouais, 20 livres et des bières tièdes, quoi. Puis on n'avait pas d'endroit où dormir, donc chaque soir sur scène, Marlène demandait chez qui est-ce qu'on peut dormir ce soir. Je me suis retrouvée une fois à dormir dans une baignoire. Enfin bref. C'était la débrouille.
Mais les gens trouvaient ça normal. Vous chantiez dans des pubs.
Bah ouais, on trouvait ça normal. Je pense que c'est aussi la force de la jeunesse, quoi. C'est vrai que là, je crois que je me suis habituée aussi à un certain confort et que si demain je devais dormir dans des baignoires après les concerts, peut-être que je le vivrais un peu plus mal.
Et votre manière de vous voir face au public, parce que là, vous avez essuyé des réactions pour le moins sexistes.
Oui, bah c'était aussi avec La Femme d'ailleurs, les premiers trucs pas chouettes que j'ai entendus. Je me souviens une fois, j'avais mis une jupe et j'étais toute contente. Je la trouvais, c'était une nouvelle jupe. Je suis allée sur scène comme ça et il y a un mec au premier rang qui, avant même que j'aie eu l'occasion d'ailleurs de chanter, a crié « Ah bah celle-là, ils l'ont pas pris pour sa voix !» Voilà.
J'en reste sans voix. Cette fois-ci, on va parler de musique. Grosse tournée annoncée en 2 salves. D'abord, du 7 octobre jusqu'au 18 novembre, on pourra voir Clara Luciani à Nîmes, Marseille, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, les 17, 18 et 19 octobre à l'Olympia, Angers, Bruxelles, Luxembourg, Lausanne. C'est pas fini, parce qu'ensuite, en 2022, il y aura la tournée des Zéniths, du 9 au 31 mars, Bruxelles, Strasbourg, Nancy, Lille, Rouen, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Dijon, Paris, avec 2 groupes différents ou la même configuration?
Non, c'est la même configuration, c'est simplement qu'en fait, les dates que vous avez annoncées en 2021 sont complètes, donc on a décidé de remettre ça et de faire une fête encore plus immense dans les Zéniths. Et donc, prenez vos places, parce que je pense que ça va être spectaculaire.
Et vous avez dit qu'il allait y avoir des chœurs et un orchestre à cordes.
Alors, je ne sais pas si je pourrais faire tout ça, mais dans la mesure du possible. En tout cas, les chœurs, ça me paraît indispensable, parce qu'ils sont vraiment une place fondamentale dans le disque.
Je ne vais pas la passer, parce qu'elle n'est pas tout à fait dans l'ambiance, et puis il nous reste très peu de temps. Sur votre compte Instagram, je vais parler de la dernière chanson, qui est en hommage à votre grand-père, et sur votre compte Instagram, vous aviez lancé un appel après sa disparition. Il a été emporté par le Covid à 88 ans. Pourquoi?
Pourquoi
cet appel?
La dernière chanson, c'est Au revoir, c'est ça? Non, c'est plutôt une chanson en fait sur mes adieux au public, etc. Mais sur le dernier, l'avant-dernier. enfin le premier album.
Ouais, sur le premier,
il y avait
pardon.
Une chanson qui s'appelait D'or et qui était pour ma grand-mère.
Voilà, parce que je pensais juste au fait que vous ayez eu des fêtes avec vos potes qui faisaient des fêtes sans masque et puis toutes les théories complotistes et je me demandais ce qui vous faisait le plus peur.
Oh, c'était terrible ça, d'avoir été dans un moment où tout le monde remettait en cause l'existence du Covid alors que moi je venais de perdre un être cher de cette maladie. C'était vraiment dur, ouais.
Merci Clara Luciani pour ces mots,
merci
pour
à
cette
vous,
belle énergie.
Merci pour votre accueil.
Pareil, et pour cet appétit à tous les sens du terme. Je rappelle, ce nouvel album, il s'appelle Cœur. Cette chanson, je l'adore. On me dit enchaîne, mais en fait, j'avais envie de l'entendre. Merci beaucoup Clara Luciani
merci
d'avoir été
beaucoup.
Avec nous. On se retrouve lundi à 9h pour Culture Média. Nous serons avec le publicitaire Maurice Lévy, immense figure pour le lancement de l'Escalator, une start-up pour les jeunes en difficulté. Et puis le chanteur Rover pour Ice Keller, troisième album enregistré dans une glacière désaffectée de Bruxelles. Vous allez entendre ce son juste après le flash chez Anne Romanoff. Ça fait du bien. Je vous dis bon week-end. Je vous dis à lundi. Salut.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.